J'aimerais démarrer ma prédication par une question. C'est quoi l'intérêt du baptême? Et qu'est-ce qui motive des gens à se faire baptiser? Est-ce que c'est une obligation que nous leur imposons? Est-ce que c'est une tradition qui traverse les siècles? Ou eh bien, est-ce que c'est le fruit, les conséquences d'une relation avec Dieu, une relation authentique d'un Dieu qui se révèle et qui donne dans nos cœurs des convictions? Découvrir le vrai sens du baptême peut littéralement et concrètement transformer des vies. Parce que c'est de ça qu'il est question lorsqu'on parle de baptême, on parle de la vie. On dit souvent qu'on amène des gens, passent de la mort à la vie. Et c'est une réalité. Le baptême, c'est une prise de conscience, une manifestation de nous étions morts sous le poids du péché, mais nous revenons à la vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons comprendre et réaliser que la vie sur terre n'est qu'un échauffement pour notre éternité. Je dirais pas autrement que nous faisons sur la terre que de nous préparer pour vivre l'éternité. Et les décisions que nous prenons sur cette terre vont déterminer le terrain sur lequel nous allons jouer notre éternité. On vit un moment de fête ce matin parce que 10 personnes vont passer par les eaux du baptême, vont céder leur engagement de vie avec le Seigneur Jésus-Christ. 10 personnes qui étaient abandonnées mais qui ont été retrouvées, qui ont retrouvé le chemin de la maison. Et savez-vous ceci, pendant que je préparais le message, je cherchais les effets des enfants qui quittent la maison des parents. Et il y a un syndrome qui existe lorsque les enfants quittent la maison des parents pour quelque raison que ce soit parce que l'âge tourne et qu'arrivé à 45 ans, tu as envie de prendre ta liberté. Que ce soit une dispute, que ce soit, quel que soit le fait, il y a un syndrome qui existe qui s'appelle le syndrome du nid vide. Et le syndrome du nid vide, il intervient chez les parents quand les enfants quittent la maison, il laisse place à une douleur, à un déchirement, à un mal-être parce que les enfants ont quitté la maison et que les parents se retrouvent tout seuls. Et le baptême, c'est concrètement le retour des enfants dans la maison du Père. La Bible déclare que à cause du péché, Dieu a dû chasser Adam et Ève, sa création qu'il aimait, qu'il chérissait. Il a dû les chasser du jardin parce qu'il y avait le péché. Est-ce que Dieu n'aimait plus Adam et Ève parce qu'ils ont péché? Moi, je crois que Dieu les aimait toujours du plus profond de son cœur. Dieu aimait Adam et Ève, mais le péché n'était pas compatible avec la sainteté de Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a pas eu d'autre option que de renvoyer Adam et Ève du jardin. Et alors qu'il renvoie Adam et Ève du jardin, je crois, j'ai cette assurance que le cœur de Dieu est déchiré à ce moment-là. Je crois qu'à ce moment-là, Dieu souffre du syndrome du nid vide. Je dois chasser ma création, mes enfants bien-aimés de la maison. Et pourtant, je les aime et je suis seul à nouveau. Et c'est une réalité. Nous sommes devenus, à cause du péché d'Adam et Ève, nous sommes devenus des orphelins sur cette terre. Des orphelins qui courront après la réalité de notre histoire. Nous cherchons à retrouver quelles sont nos racines, quelles sont la vérité de qu'est-ce qui nous est arrivé. Et dans tout cela, les orphelins que nous sommes, cherchons inconsciemment, sans cesse, le sens de notre vie. Il y a des questions qu'on se pose, on se dit, mais pourquoi je me pose ces questions-là? Parce qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, il y a quelque chose de plus grand que nous. Et l'apôtre Paul dira aux Romains dans le chapitre 8, les versets 19 à 22, que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Et l'humanité tout entière, vous, moi, les gens qui peut-être sont à l'extérieur, les gens qui sont au gym en ce moment, les gens qui sont en voiture sur la route, nous cherchons en permanence quelque chose de plus grand que nous. Nous cherchons quelque chose de plus grand pour notre confort. Nous cherchons quelque chose de plus grand pour notre sécurité. Nous cherchons quelque chose de plus grand pour notre bien-être. Nous cherchons quelque chose de plus grand pour notre santé, pour nos vies, pour un épanouissement personnel, pour un épanouissement familial. C'est une quête qui est en nous. Nous courons après quelque chose de plus grand, quelque chose qui va nous sécuriser. Et c'est une quête qui nous dépasse, c'est une quête qui souvent et parfois est inconsciente, mais c'est une quête qui nous fait réaliser que Dieu est souvent plus proche qu'on ne peut l'imaginer. L'apôtre Paul dira ceci aux Athéniens qui adoraient tellement de divinités et qui finalement étaient si proches du Dieu vivant sans le connaître. Acte 17 nous dit ceci au verset 22. Que Paul se tenait debout au milieu de l'aéropage et il a déclaré cette phrase aux Athéniens. Il dira « Homme Athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ils adoraient un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Ils couraient après quelque chose qui les dépassait, mais quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Et il dira ceci, ce que vous révélez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. C'est ce que nous vous annonçons ce matin à l'église Nouvelle Vie de Drummondville. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve étant le Seigneur du ciel et de la terre n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habita sur la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu, Dieu, qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Dis à quelqu'un côté de toi, es-tu conscient que Jésus est assis entre nous deux? Il n'est pas loin de nous. Paul déclare ceci, il fait une déclaration puissante, il dit « Vous cherchez plus grand, vous voulez plus puissant, vous voulez des choses plus performantes, plus qui vous dépassent pour votre confort, pour votre sécurité, pour votre protection, pour votre santé et pour vos vies. Et vous êtes sur le point de trouver votre quête. Ce quelque chose de plus grand est tellement près de vous que vous le vénérez sans le connaître. Vous ne savez pas le nommer, vous ne savez pas qui il est, mais vous le vénérez. Vous êtes prêt à adresser des prières à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais je suis arrivé jusqu'à vous pour vous l'annoncer et vous le faire connaître. » Quelqu'un devrait dire amen. Ce matin, c'est la célébration de gens qui ont reconnu le Dieu qu'ils vénéraient sans le connaître. Le baptême que nous allons vivre ce matin, les baptêmes, c'est l'accomplissement de cette quête. Le baptême d'eau, c'est la libération de la réconciliation de Dieu. C'est la célébration de la rédemption que Dieu a désirée dès le commencement. Et la parole de Dieu nous démontre avec une puissance incomparable combien la rédemption a toujours été le projet de Dieu. Alors, lorsque Dieu a chassé Adam et Ève du jardin, sa priorité, son idée première, c'était comment est-ce que je vais pouvoir les réconcilier avec moi. Toute la parole de Dieu nous montre Jésus en filigrane. Toute la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse nous révèle que Jésus est dans le décor. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pas toujours visible directement, mais présent malgré tout. Jésus traverse la parole de Dieu parce que Jésus est la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, regarde les détails de ta vie présente. Regarde les détails de ta vie passée. Analyse-les, scrute-les. Je te dis, tu vas découvrir Jésus en arrière-plan. Toutes les situations que nous vivons, toutes les choses que nous recevons sont des outils que Dieu utilise pour nous amener à Jésus. Peut-être t'es là ce matin pour la première fois, tu dis, je suis venu de mon plein gré. Oui, je suis pas allé te chercher chez toi, j'ai pas démarré ton auto, t'es venu de ton plein gré. Mais je crois assurément que Dieu savait que ce matin, tu déciderais de venir à l'église parce qu'il y a un message pour toi. Il y a un message pour toi. Dieu est présent à chaque carrefour de ta vie. Il ne tient qu'à toi de le rencontrer. Comme les Athéniens qui adorait un Dieu si proche mais inconnu. Mais Paul venait et Paul allait leur révéler qui est ce Dieu. Quelqu'un doit entendre ceci, que peu importe où tu te trouves, tu es au bon endroit pour rencontrer Jésus. Il n'y a pas d'endroit où Jésus ne pourra pas venir te trouver. Peu importe ta situation, peu importe ton emplacement physique, tu es toujours au bon endroit pour rencontrer Jésus. Il est toujours disponible, il est toujours prêt à venir vers toi. Il n'y a aucun endroit où que Jésus ne pourra pas venir te rencontrer. Jésus est disponible universellement. Il est sans cesse disponible. Il est disponible partout. Il est disponible en tout temps. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Il offre son amour. Il offre sa grâce. Il offre sa présence. Peu importe notre situation. Peu importe les circonstances de nos vies. Et ça, c'est de toute éternité. Jésus s'est toujours laissé trouver. La parole de Dieu nous dit dans l'Épître aux Hébreux que la loi portait l'ombre des biens à venir. Concrètement, l'Ancien Testament portait l'ombre, l'image d'un Jésus-Christ qui allait être manifesté dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament porte le message de la grâce et de la rédemption. Et nous contemplons à travers l'Ancien Testament déjà la puissance du plan salutaire et de la rédemption que Jésus allait apporter à l'humanité. Tellement bon de réaliser cela. L'Ancien Testament annonçait les choses à venir dans le Nouveau, et le Nouveau Testament confirme et accomplit les prophéties et les préfigurations de l'Ancien Testament. J'aimerais rapidement entrer dans un message qui est un message qui date de 1400 ans avant que Jésus ne vienne. Et 1400 ans avant que Jésus ne vienne, Dieu dévoilait déjà le plan de rédemption pour l'humanité. Dans une préfiguration extraordinaire, tous les éléments étaient déjà présents. Une mort environnante, le besoin impératif d'une action divine, un homme à l'écoute de Dieu, un chemin au cœur de l'impossible, le passage de la mort à la vie et la destruction de l'oppresseur qui venait pour détruire. Nous trouvons ce texte dans l'Exode, le livre de l'Exode. On connaît tous le livre de l'Exode et de l'histoire de Moïse, qui a été missionné par Dieu pour libérer le peuple d'Israël, les Hébreux qui étaient en souffrance sous la servitude des Égyptiens. Et on connaît tous ce contexte dans lequel Moïse va demander à plusieurs reprises de laisser aller le peuple. Mais le cœur du Pharaon est dur, il est endurci. Et la réalité, c'est qu'il faut 10 plaies jusqu'à ce que la 10e plaie coûte la vie du fils du Pharaon pour que celui-ci accepte de laisser partir le peuple. Et c'est alors qu'il laisse partir le peuple, que le peuple prend la route vers la liberté, que le pharaon revient sur lui-même et il commence à se dire « Mais pourquoi j'ai fait ça ? Non, on n'aurait pas dû faire ça, on n'aurait pas dû. » Et il va décider de prendre en chasse les Hébreux pour les rattraper. Et le texte nous dit ceci en Exode 14, 10 à 14. Les Hébreux avaient avancé et fièrement, ils étaient contents dans les cris, dans les joies, « Wouh, on est libre !» etc. Et ils sont arrivés face à la mer. Est-ce qu'on s'entend que quand tu es face à la mer, tu as deux options? La première, c'est faire demi-tour. Et la deuxième, c'est regarder la mer pour le restant de tes jours. Personne ne va se dire « Je vais y aller, je vais traverser. » Moi, j'ai immigré en juillet, je suis venu vous rejoindre et j'ai dû traverser l'Atlantique. Mais pour vrai, je ne me suis pas posé sur les côtes bretonnes en disant « Prêt les enfants, on y va, ça va nous prendre quelques semaines de nage, mais on va économiser le prix des billets d'avion. » Jamais. Et le peuple est là face à la mer. Et le danger arrive parce qu'ils sont face à la mer qui les arrête et le pharaon vient derrière eux avec les chars et les guerriers. Et voici ce que le texte dit dans Exode 14, 10, 14. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Mais Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, mais vous gardez le silence. 1400 ans auparavant, Les textes, les calculs bibliques traditionnels sur la chronologie des rois nous montrent que le discours de Moïse date de 1446 ans avant Jésus-Christ. Et déjà dans ce passage biblique, on découvre l'œuvre rédemptrice qui vient, que Jésus-Christ va amener. Une œuvre que les Israélites ne peuvent pas comprendre parce que Jésus n'était pas venu, mais une œuvre puissante qui nous démontre à nous le plan de Dieu dès le commencement pour que nous, parce que nous connaissons l'accomplissement des choses qui sont intervenues après. Eux. Nous avons vu Jésus, nous connaissons ce que Jésus a fait, nous connaissons l'œuvre de Jésus, mais alors que les Israélites sont dans le désert, face à la mer, poursuivis par les Égyptiens, ils n'ont aucune idée que Dieu va manifester la plus belle préfiguration du plan de Dieu pour l'humanité tout entière. Il va dire ceci, Moïse va dire « ne craignez rien ». Même au cœur du danger, même là où tu te trouves, même dans ta situation, ne crains rien parce que Dieu a accompli, préparé une œuvre pour toi. De la même manière, le monde, l'humanité tout entière est face à la mort. Une mort physique, c'est certain, mais une mort spirituelle qui nous attend, qui nous guette, qui nous condamne. L'auteur aux Hébreux dira que le salaire du péché, c'est la mort. Mais regardez avec moi ceci. Tant que les Hébreux marchent, ils sont heureux, ça avance bien, on y va. On marche dans le désert avec joie. Mais lorsqu'ils sont confrontés à la mort qui les entoure, toute leur vision va changer. Et ils comprennent que leur fin se joue ici. Ils sont face à la mer, interdits d'avancer, et leur persécuteur vient derrière eux avec une rage, avec une haine, avec une colère. Et parfois, Dieu nous met dans des situations pour nous faire prendre conscience que nous sommes face à la mort et que nous courons un danger éternel. Quelqu'un doit entendre que la mort sur cette terre n'est rien. Ce qui nous importe, c'est la mort dans l'éternité. Mais personne ne craint les conséquences de ses choix tant qu'il ne les connaît pas. On est tous appelés à voir que nos choix charnels portent des conséquences spirituelles. Mais dans toutes ces conséquences, dans tout ce que nous vivons, lorsque nous prenons conscience de la mort qui nous est destinée, tout le monde peut entendre Dieu lui dire « ne crains pas ». Ce matin, peut-être c'est pour toi le message. « Ne crains pas, j'ai préparé une œuvre pour toi, j'ai préparé un projet pour toi, je vais accomplir l'impossible pour toi. Ne crains pas de vivre une rencontre avec ton Sauveur parce que il a tout accompli, il a payé le prix une fois pour tous et une fois pour toutes. Il a donné le plus grand des cadeaux. Ne crains pas. Ne crains pas lorsque la mort t'environne. Ne crains pas lorsque le péché te dit que ta condamnation est éternelle. Ne crains pas parce que Dieu a préparé. Ne crains pas lorsque tout autour de toi, lorsque tu regardes à 360 degrés et tu dis « tout m'a éloigné de Dieu, je suis condamné pour l'éternité ». Ne crains pas parce que Dieu a préparé quelque chose qui dépasse tout, même les choses qui te condamnent. Moïse va dire « restez en place ». Et c'est le second fondement de l'œuvre de la rédemption. Cette phrase de Dieu dans la bouche de Moïse, « restez en place », c'est une déclaration formelle que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes et que nous ne pouvons rien faire pour nous-mêmes. Tes œuvres ne servent à rien si ta foi en Jésus n'est pas là. Tes œuvres ne te sauveront pas. Tes œuvres ne te donneront pas de vivre l'éternité si la foi en Jésus n'est pas là. La religion, la tradition, elles sont sans effet pour te libérer. Tes moyens, tes relations, ta notoriété sont sans valeur pour te sauver. Tu n'as pas les moyens de te sauver toi-même. C'est une réalité du monde spirituel. Et c'est la foi dans le Seigneur Jésus qui nous ouvre les portes de la vie. Comme les Hébreux devaient avoir foi en Dieu pour une issue, nous avons besoin d'avoir foi en Jésus qui nous donne cette issue. C'est ce que nos frères, nos sœurs ont décidé. Ils ont accepté de choisir Jésus pour leur vie et d'être ce matin libérés à travers le baptême. Je vais poser cette question. Comment vas-tu ce matin? Oui, je respire. Es-tu en vie? Physiquement, es-tu en vie émotionnellement? Le paradoxe du péché réside dans sa capacité à te donner l'illusion d'être en pleine vie tout en te maintenant spirituellement mort. La vie sur la terre est un fait, mais elle n'est rien comparée à l'éternité dans laquelle nous sommes appelés à vivre. C'est pourquoi même 80, 90 ans, 100 ans pour les plus robustes d'entre nous, ce n'est rien comparé à l'éternité que nous allons passer. Et Dieu nous appelle à être réconciliés. Dieu nous appelle à accepter l'œuvre de Christ afin d'être restaurés dans notre identité, afin d'être pardonnés, afin d'être réconciliés. Le péché nous donne l'illusion de la vie, mais la réalité, c'est qu'il nous mène à la mort spirituelle, une absence de vie véritable et abondante en Dieu. Restez en place. Rester en place, c'est la parole d'un Dieu tout-puissant à un peuple impuissant, incapable de changer sa destinée. C'est la parole de Dieu qui déclare « Voyez comment j'ai déjà tout préparé afin que vous soyez libérés. » Parce que l'humanité, par nature, est entièrement vouée au péché. Et aucun esclave ne peut se voir prisonnier tant qu'il n'a pas connu la liberté. Quelqu'un qui est esclave de sa vie, esclave de son péché. Depuis tout petit, nous sommes nés dans le péché. Tu vas dire, moi, j'ai jamais rien fait de mal. Il y a quelque chose que tu as hérité, que j'ai hérité par nature à cause du péché originel. Et nous avons besoin finalement de venir à Dieu, de venir en Jésus-Christ afin d'être restaurés et de retrouver notre nature. L'humanité entière est prisonnière du péché. Et tu peux pas comprendre la liberté en Jésus tant que tu ne l'as pas vécu. C'est pour ça que les Hébreux, vont dire, oh, nous, on préférait être en Égypte. Pourquoi tu nous as sortis d'ici? On était bien en Égypte. Ils ne connaissaient plus la condition dans laquelle ils vivaient. Les générations s'étaient succédées et les générations vivaient dans quelque chose qui paraissait normal pour eux, mais qui n'est pas normal aux yeux de Dieu. De la même manière, nous sommes enfantés de génération en génération dans quelque chose qui est normal pour nous, mais le péché que nous ne voyons pas, que nous ne voyons plus, reste la barrière qui nous sépare de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'Éternel délivre. Tu peux saisir la vie. Alors, lorsque Moïse continue son discours aux Hébreux, il va dire « Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Tu peux saisir la vie, tu peux être délivré de l'esclavage, tu peux être délivré de la puissance du péché. » Et ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque Moïse dit « Regardez la délivrance que l'Éternel vous accorde », le mot « délivrance », l'étymologie du mot « délivrance » en hébreu, c'est « Yeshua ». Extraordinaire, c'est Yeshua, la même étymologie que Yeshua, Jésus. En d'autres termes, déjà 1400 ans plus tôt, Moïse disait, si tu regardes à ta délivrance, si tu restes focus sur Yeshua, si tu restes focus sur Jésus, tu peux passer de la mort à la vie. Dès le début, le plan de rédemption est annoncé et c'est ce plan que nous vivons et que nous annonçons ce matin. Une humanité livrée au péché, condamné à une mort éternelle, mais un Jésus qui vient pour être la délivrance, qui vient pour ouvrir la voie là où règne la mort, pour nous préserver et nous sauver. Écoute bien, ceci c'est la conclusion de mon message pendant que j'invite les musiciens juste à prendre place alors qu'on va passer à notre service de baptême. Regarde la délivrance que Dieu veut t'accorder. Il est le Dieu qui va, avec puissance et autorité, ouvrir la mer en deux. Il va ouvrir ce qui nous empêche d'avancer. Il nous préserve de la mer, qui est la représentation des puissances spirituelles, des dominations, des hauteurs qui nous entourent, mais qui sont figées, paralysées face à la puissance de Dieu. La mer est ouverte, les eaux sont figées, fixées. Les eaux, c'est la représentation de la puissance qui veut littéralement nous balayer, mais Jésus les garde figées. Il est notre délivrance. Il est également la délivrance des Égyptiens qui sont derrière les Hébreux. Et les Égyptiens, c'est la représentation de notre passé, de notre histoire, de tout ce qui veut nous empêcher de marcher vers la vie, de tout ce qui nous accroche et qui nous dit « tu n'iras pas plus loin ». La rédemption, c'est Jésus qui déclare que rien ne se dressera devant toi pour t'empêcher d'être libre, que rien ne restera derrière toi pour te retenir. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour du salut pour nos cinq amis. Et regarder à Jésus, c'est l'assurance de voir ses erreurs, ses peurs, être figés dans leurs impuissances. Alors que Dieu nous fait marcher vers la liberté, vers la vie, dans sa puissance. C'est ça qui nous rend libres de toute condamnation. C'est la conclusion du message de Moïse. Il va dire, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Le péché que tu connais, tu ne le connaîtras plus. Les puissances qui t'arrêtent, elles ne t'arrêteront plus. De la même manière que Dieu a condamné les Égyptiens qui portaient la mort pour les Hébreux, Jésus a condamné la mort et le péché. L'apôtre Paul dira ceci en Romains 8, que toute chose qui était impossible à la loi, parce que la chair les rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Moïse appelle à regarder les Égyptiens à la mort pour réaliser le miracle de la vie. De la même manière, Jésus nous appelle à voir notre ancienne nature pour traverser la mort et entrer dans la vie. Parce que nous ne pouvons pas nous racheter par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous sauver par nos œuvres. Nous avons besoin de comprendre et de saisir le miracle de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est avec ce miracle que l'apôtre Paul, qui était un meurtrier, un persécuteur de chrétiens, quelqu'un qui avait les mains sales, pourra déclarer en Romains 8, 38, 39 qu'il a l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra le séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est ça que nous célébrons ce matin. C'est ça que nous allons vivre et expérimenter avec nos baptisés, que rien ne peut séparer de Jésus-Christ, celui qui a choisi la vie, celui qui a regardé l'œuvre de Dieu se mettre en place, celui qui est resté en place dans son impuissance pour regarder la puissance de Dieu être manifestée pour libérer des hommes et les amener de la mort à la vie. Est-ce qu'on peut donner une ovation pour Jésus ce matin? Yes!